Je vais essayer d'être clair ce matin, mais ça ne va pas être simple. Donc, soyez attentifs, et que vos oreilles écoutent, parce que ça faisait un moment que je préparais une prédication pour ce dimanche, enfin, peu importe le dimanche. Et ce matin, 2h du matin, réveillé, et tout a changé. D'accord ? Donc, vous allez vous accrocher. Ce ne sera pas structuré de manière scolaire. Le but, c'est qu'on puisse recevoir cette pensée de Dieu. Et lorsque tu sais, lorsque tu changes quelque chose au dernier moment, il faut en être capable parce que si tu es trop rigide, ça te stresse. Alors, je ne suis pas du genre à me stresser facilement, donc ça va aller. Mais on a toujours besoin de confirmation de la part de l'Éternel. Et pourquoi j'ai demandé à Wilfried de nous parler de ce qu'on a reçu à l'intercession, parce que tout simplement... Eh bien, j'étais là et le Seigneur m'a réveillé. J'ai dû mettre de côté tout ce qu'il y avait dans ma tête, faire une mise à zéro. Et je me suis souvenu d'une parole de lundi matin, une parole qui avait été donnée à l'intercession, et c'était celle-ci. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et elle m'avait interpellé, cette pensée, et je réfléchissais, et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? On prie, c'est bien, on reçoit, mais à un moment donné, il faut digérer, il faut comprendre, il faut essayer d'évaluer la situation, les circonstances autour de nous, ce qu'on vit. Mais quand Dieu parle, c'est pas évident, parce qu'on reçoit ça, et Dieu, il est marrant, parce qu'il te donne une parole, comme ça, et débrouille-toi avec. Débrouille-toi avec ça, vis la chose, expérimente la chose, parce qu'on a un Dieu vivant, et il nous invite à expérimenter par la foi, la vie en Jésus-Christ par son esprit. Si on n'expérimente pas, on est des religieux intellectuels, remplis de raisonnements, et on fonctionne dans des concepts, dans des principes et des vertus, mais ça manque de vie, tu vois. Et cette parole, ce matin, on arrive à l'intercession, et on prie, et j'aime bien m'arrêter, dire, écoutez, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Et quelqu'un dit, écoute, depuis toute la semaine, cette pensée était dans mon cœur, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le même verset, c'est pas possible. Première confirmation. Puis ensuite, on a parlé de tout ce que Wilfried nous a dit, donc le fait, la source, la question de l'esprit de prière, et le Saint-Esprit m'interpellait vraiment à nous dire ce matin, il faut qu'on vive notre foi pleinement et réellement. Et lorsque je te dis ça, tu me dis, bah oui, parce que là, c'est ta tête qui tourne. C'est ton raisonnement, c'est les choses que tu sais. Mais vivre pleinement la foi, ça reste un défi pour chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Est-ce que réellement, je vis profondément Christ? Est-ce que je suis dans sa pensée complète et totale? Est-ce que je suis imprégné de sa présence? Ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser chaque jour. Et le Seigneur nous dit, arrête-toi. Stop, calme-toi, sache que je suis Dieu. Alors on va voir un petit peu ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Vous savez, on passe beaucoup de temps dans notre vie à essayer de briller, qu'on soit vu, entendu, reconnu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons à dire, pour ce que nous savons faire, etc., etc. C'est une société qui veut ça, mais voilà, nous sommes... notre diplôme, nous sommes nos capacités, nous sommes etc. Et on peut mettre beaucoup d'exemples là-dedans. Et nous, en tant que chrétiens, on veut être de bonnes personnes, on veut être de bons chrétiens, on veut être de bons leaders pour notre famille, dans notre couple, dans notre entourage, et là où on a une influence, on veut apporter tout ce que le Seigneur nous accorde, on veut être bon, on passe du temps à se dire, est-ce que Seigneur, vraiment, c'est la bonne chose que je dois faire, mais... Parfois, on se rend compte qu'on veut briller, mais on ne brille pas, parce que tout simplement, vous voyez les ampoules, si elles ne sont pas connectées, parfois il y a un faux contact, tant que ce n'est pas connecté à la source d'alimentation, à l'électricité, tu ne peux pas briller. Et le secret qui vient du ciel est très simple. L'évangile est simple, et on a une capacité à le complexifier par nos raisonnements, par notre ressenti, par les choses que nous avons compris ou mal comprises. Et on complexifie les choses, notre culte à Dieu devient compliqué, on rentre parfois dans des rituels, on a parfois des pensées qui sont peut-être même contraires à la volonté de Dieu. Vous voyez, on est comme ça, on a un cœur assez tortueux. Mais on veut nos réponses tout de suite. Et il y a un secret simple qu'on oublie parfois, c'est que nous ne sommes pas la source. Tu n'es pas la source. À aucun moment, tu es la source. Tu es le reflet de la gloire de Dieu, mais tu n'es pas la source. Christ est ta source. Et on passe tellement de temps parfois à fabriquer nos propres sources à nous. Et on va lire pas mal de versets. On va voir que depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et qu'on doit faire attention. Et si le Seigneur nous dit « arrêtez-vous », c'est que quelque part, parfois, on est plutôt dans l'activisme que dans la vie avec Christ. Alors, il faut revenir pour nous à l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir comment les premiers chrétiens vivaient. Et les premiers chrétiens, je ne vous parle pas des catholiques d'il y a 1000 ans, des orthodoxes ou des protestants qui ont fait la réforme. Je vous parle ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, il nous est dit « ils étaient tous ensemble dans un même lieu ». Déjà, ça nous interpelle. Et ça m'interpellait cette nuit quand je lisais ça. Ils étaient tous ensemble. Dans une société comme la nôtre, très individualiste, lire ça, ça nous secoue. Parce que nous, on est tous ensemble quand ? 1h30 le dimanche matin. On est tous ensemble. Et pendant 1h30, on veut tout vivre. La gloire de Dieu, les miracles, la joie de l'esprit, les pensées du Seigneur, les prophéties, etc., etc. C'est juste ou pas? Et quand on prie, on réclame toutes ces choses à Dieu, et puis on en voit une, on en voit deux, on est encouragé, c'est très bien, Dieu est bon. Mais ils étaient tous ensemble. Vous connaissez la suite du verset. C'est qu'ils vont recevoir, je vous avais parlé de ça il y a quelques semaines, avec Jésus qui, avant sa mort, va souffler sur eux, il va dire « recevez l'Esprit ». Et ensuite, il va leur donner cette recommandation, « allez à Jérusalem, vous recevrez ce qui a été promis, le Saint-Esprit ». Ok ? Et donc, ils sont là, c'est dans ce contexte-là, ils sont dans la tente, et avant le feu, avant le vent, tout simplement, c'était l'attente. Attendez. Et ils ont attendu comme ça quelques jours, ils ont prié, ils se sont alignés. Et finalement, être ensemble, ce n'est pas seulement être d'accord. Ce n'est pas seulement se dire, ok Sandy, je suis d'accord avec toi, ta doctrine est bonne, j'ai la même doctrine que toi, ok, je reste dans ton église. On est comme ça les chrétiens. Hein. Quand on cherche une église, on va regarder quelle est la doctrine. C'est important. La parole est importante, les rites, les us, les coutumes d'une église, c'est important qu'on soit aligné avec. Mais il n'y a pas que ça. Et ensemble, ça veut dire parfois arrêter ensemble de s'agiter dans tous les sens. On est tous dispersés dans nos vies, on est agités, on a des préoccupations, on a des objectifs personnels, et puis on est tous dispersés. Et c'est comme si Dieu dit « arrêtez, j'ai besoin de vous parler ensemble ». C'est un père qui réunit sa famille parce qu'il veut lui parler, parce qu'il veut nous remplir différemment, parce qu'il veut faire, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Mais stop, stop. Combien de fois t'es venu à l'église rempli de préoccupations et t'as traversé le culte comme si de rien. L'oreille était fermée parce que ta semaine était difficile et que de toute manière, voilà, c'est tout. T'étais pas dans un état de cœur pour recevoir ce que Dieu avait te dit. Dieu a parlé, mais toi, t'étais pas réceptif. Ça m'est arrivé, hein, plein de fois. Wilfried, ça lui arrive rarement. Lui, c'est un... Vous comprenez ce que je veux dire? On passe parfois à côté parce qu'on est distrait. On n'est pas dans le ensemble. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son église locale? À nous, rassemblés. S'il nous rassemble, c'est pour nous parler. Alors, on ne veut pas juste sauter d'événement en événement en événement. Et puis, vous savez bien que nous, on n'est pas une église de programme où on va vous accabler sous un programme énorme. Et puis, au plus tu es occupé, au plus tu es spirituel, ça ne veut rien dire tout ça. L'important, c'est de ne pas juste traverser comme ça la vie d'événement après événement, même dans notre vie personnelle, mais d'accepter de vivre les choses, d'entendre ce que Dieu a à nous dire et d'être présent dans l'instant. Alors, j'aimerais savoir, toi qui étais là ce matin, étais-tu présent dans l'instant, dans la louange? As-tu vécu l'amour de Dieu dans la louange? C'est un instant qui est déjà passé, c'est déjà fini, et pourtant c'est si proche. C'est fini, on ne revivra plus la louange qu'on a vécue ce matin. C'est terminé. Et pourtant Dieu était là. Est-ce que j'ai apprécié chaque goutte de sa présence? Pas juste, et là je ne te demande pas de regarder avec tes yeux humains, hein. Ouais, bon, j'aime bien quand lui fait la louange, j'aime bien quand celui-là intervient. Non, ça c'est humain, c'est charnel, c'est des choses qui sortent de terre. Je te parle des choses que Dieu, de l'inspiration qui était là ce matin. À travers de chaque chant, de chaque pensée, de chaque parole, de chaque verset, as-tu goûté à chacune de ces gouttes d'eau-là? Et ça a commencé à te remplir. Ou est-ce que tu as juste traversé comme ça de manière, bon, j'analyse, ok, lui il chante un peu trop fort, bon, ah là, lui il parle en langue, c'est pas le bon moment, ah, lui il fait ceci, non. Ah, parfois on est des experts chrétiens. On est tellement des experts que nous, on est dans la gloire de Dieu dans nos pensées tout seul. Mais Dieu nous appelle à vivre ensemble des instants. Et peut-être des choses qui te dépassent à certains moments que tu ne maîtrises pas. Mais juste, Dieu veut te parler. Et il est vivant. Oui à la doctrine, oui à l'enseignement, mais il y a ce qu'il veut qu'on vive aujourd'hui, nous. À l'époque, il a dit, allez, la chambre haute, je vous attends. Vous avez quelque chose à vivre qui va changer votre vie et qui touchera le monde entier. Moi, je veux vivre la même chose. Et chaque dimanche, tu vas venir et te dire, Seigneur, elle est où ma Pentecôte? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux m'interpeller? Et pas que moi, l'Église, mon frère, ma sœur, et que je puisse voir ta gloire en lui. Alors, bibliquement, nous sommes vraiment comme un miroir. Tu n'es pas une source, tu es un miroir. Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu. Dans Genèse, on va voir que Dieu nous a créés, si tu veux, si tu suis, Dorine, tu suis avec les versets, je ne vais peut-être pas les citer, donc essaie de suivre les choses. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À notre image, c'est ton humanité, c'est ce que tu es en tant qu'homme, en tant que femme. Avec ton raisonnement, ta pensée, tu es corps, âme, esprit, tu as une réflexion, tu as des sentiments. Nous sommes toujours créés à l'image de Dieu. Quand tu me vois, je suis à l'image de Dieu. Quand je te vois, tu es à l'image de Dieu. Le problème, c'est qu'avec le péché, nous avons perdu la ressemblance. On ne ressemble plus tant que ça à Dieu, tu vois. Parce que le péché a mis ce grain de sable-là dans la machine. Mais nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'intention de Dieu a toujours été qu'il puisse, au travers de toi, au travers de moi, il puisse nous utiliser pour refléter sa gloire. On a entendu ce matin, j'ai été fait pour ta gloire. Et c'est juste. Alors en Jésus-Christ, on va retrouver cet accès direct à Dieu. Et il y a toujours ce désir du Seigneur que nous lui ressemblions toujours plus chaque jour. Alors lorsque on voit un problème à ce moment-là, c'est que au moment où Dieu va venir et va parler à Adam, il va lui dire, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, il va lui dire, c'est la femme que, enfin c'est le vis-à-vis, la femme, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais que tu m'as donné. Il se permet d'accuser Dieu, qui m'a fait fauter. Moi, j'accuse souvent ma femme. Quand je ne trouve pas mes clés, vous savez ce que je fais? Je dis, pourquoi t'as rangé mes affaires? Ouais, il y a Adam, moi, qui parle. Il se réveille, le Adam. Il ne trouve pas ses clés, il accuse sa femme. Il y a des hommes qui sont comme moi ou il n'y a que moi? Je suis le seul pécheur dans la salle. Ah, il y en a d'autres. Merci, Frédéric. Ah. Vous voyez, c'est facile de toujours se justifier de quelque chose qu'on n'arrive pas, qu'on a raté, de trouver un fautif. Donc souvent, ma femme, excuse-moi chérie, mais souvent tu es la fautive. Elle me dit, vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond, je peux plus rien faire pour toi. J'ai mis des pots partout dans la maison. Mais tu poses tes clés dans le frigo, à côté. Vous voyez, moi, je pense, je réfléchis, et j'ai mes clés en main, et après je dis, mais mince, où est-ce que j'ai mis ça? Elle me dit, arrête de réfléchir. Sois présent à ce que tu fais, s'il te plaît. Ça, c'est mon problème. Oui, besoin de me concentrer. Alors, on a cette capacité à se justifier. Le problème, c'est que quand on justifie quelque chose, eh bien, tout se fige entre nous et Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand tu te justifies, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Et quand tu n'es pas d'accord avec Dieu, Dieu, il dit, je ne peux plus rien faire pour toi. J'ai mis des pots partout, mais tu ne les utilises pas. Alors, on va se justifier dans notre vie. Ici, je vais te parler de notre vie avec Christ, tu vois. Et tu vas dire, mais tu sais, moi je suis froid. Je suis quelqu'un de froid parce que j'ai été blessé. Tu justifies ta froideur. Mais l'amour de Dieu n'est-il pas chaleureux? N'est-il pas profondément, il te saisit? C'est incroyable. Mais toi, t'es froid parce que t'as été blessé. Tu te fixes dans une attitude où tu te prives de la gloire de Dieu et tu te prives de pouvoir être le reflet de ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu vas cacher ça sous ton caractère. C'est mon caractère. Amen. Eh bien, j'aimerais te dire qu'il y a un mensonge, et c'est le mensonge du caractère. Peu importe, David, ce dans quoi elle t'a roulé, tu es appelé à vivre avec le caractère de Christ. Ensuite, nous avons tous une personnalité singulière, différente, avec une grâce différente. Effectivement, on n'est pas tous pareils. Mais nous avons un seul modèle, et c'est Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit ça, en menuiserie, on a une façon de faire. C'est-à-dire que si je veux fabriquer 10 chaises identiques en tant qu'artisan, pour chaque pièce de bois, je vais avoir un gabarit. Et ce gabarit va me permettre de reproduire les chaises. Si je fabrique d'après le gabarit une première pièce, et qu'ensuite je prends cette première pièce et que je pars de la première pièce, et qu'ensuite je prends la deuxième, je fais la troisième, et que je ne me fie plus au gabarit, eh bien je vais me retrouver avec une chaise comme ça. Parce qu'il va y avoir une différence, parce que je ne peux pas être dans la perfection, je peux être proche de la perfection, mais je ne peux pas être dans la perfection, et bien auquel cas je vais m'éloigner de mon modèle. Donc il faut que pour mon usinage, usiner ça veut dire reproduire, eh bien je me base toujours sur le modèle. Et mon seul modèle en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être Jésus-Christ. On dit mon modèle c'est mon pasteur, c'est mon machin. Non, s'il te plaît, ne me prends pas en modèle. Parce que je peux t'assurer, tu vas finir comme ça. Et c'est une réalité. Je ne peux pas être ton modèle. Par contre, je peux tout simplement être un encouragement dans un aspect de ma vie qui reflète Christ. Et auquel cas, tu vas dire, tiens, lui, il a quelque chose de Christ en lui, je veux m'en saisir, je veux m'accaparer de ça. C'est ça, c'est Jésus. Et ça, c'est important qu'on fasse ça les uns avec les autres. Mais ne fais pas d'un ministère ton modèle. Ou je ne sais quoi trop. Vous comprenez la nuance? Aimez les gens qui vous entourent, qui vous guident. Alléluia! Mais finis pas comme ça, s'il te plaît. Le seul modèle, c'est Jésus-Christ. Alors Jérémie 2, verset 13 nous dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vivante, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Je répète, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. La source, c'est tout ce qui est donné directement par Dieu. La citerne, c'est tout ce que l'homme a fabriqué, c'est tout ce qui sort de terre au travers de la volonté propre de l'homme. Il y a des choses qui peuvent sortir de terre de la volonté de Dieu. Ça appartient à Dieu, mais c'est ce qui vient de nous-mêmes directement, ok, les citernes. Alors la citerne, c'est un réservoir qui est creusé dans la roche. On a besoin de garder l'eau, donc on va creuser dans la roche. Pour garder de l'eau, tu ne vas pas creuser dans du calcaire, c'est une roche poreuse qui va laisser échapper l'eau. Tu vas creuser dans du granit ou une roche dure qui va garder l'eau. Et donc tu vas creuser, et creuser des citernes, c'est un travail qui est épuisant, éreintant, qui demande tout ton temps. Et là, Dieu dit, il y a deux choses, deux péchés. Vous m'avez abandonné, vous vous êtes détourné de moi, ça veut dire que plutôt que d'orienter, vous voyez la lumière, si j'avais un miroir et que je voulais refléter la lumière là-bas, il faudrait que j'oriente à 45 degrés et que j'oriente à l'endroit où je vais envoyer la lumière. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le miroir et on va dire, abandonner Dieu, c'est maintenant, je regarde le sol, je me regarde moi. Et ça, c'est dans nos sociétés européennes, c'est ce qu'on fait. On est très individualiste. On pense à nous. On lit la Bible pour nous. On écoute les prédications pour nous. On chante des louanges pour nous. Et on a du mal à dire, Seigneur, je veux être rempli de toi pour les autres. Et c'est ça la grande différence. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis la source. Tu n'es pas la source. Tu n'es pas le centre de toute chose. Oh là là, ça nous fait mal ça. Hein? C'est difficile à accepter. Alors dans ces roches, tu vois, eh bien, finalement, il est écrit que, ce sont des citernes crevassées, c'est-à-dire qui ont une faille. C'est quoi que tu creuses dans ta vie par tes propres forces, tes propres efforts, quoi que tu construises qui ne vient, qui vient que de toi, ça se fissurera à un moment donné. Et peu importe que tu sois fier de ça, alléluia, eh bien tu peux être fier de ça, mais ça se fissurera. Et ce qui se passera, c'est que tu perdras l'eau et tu seras fatigué parce que tu passeras ton temps à remettre de l'eau là-dedans et ça partira. Et ça va créer des chrétiens fatigués, usés, des chrétiens en burn-out parce qu'ils creusent. Ils ont aimé Jésus, ils se sont centrés sur eux et ils creusent, et ils creusent, et ils creusent. Et ils mettent de l'eau, mais mince, pourquoi je ne suis pas béni, qu'est-ce qui se passe? Et l'eau, elle s'en va. Parce que quand tu as eu cette attitude, tu as abandonné Dieu, ce qu'il voulait pour toi, et tu as décidé de te rendre autonome, de prendre la place de Dieu. Et en plus de ça, ce qui est vicieux, c'est que tu vas justifier ton attitude. Ce n'est pas de ma faute, on m'a blessé. Ce n'est pas de ma faute, l'enseignement n'était pas bon. Ce n'est pas de ma faute, Seigneur, mais tu comprends. Et pendant ce temps-là, tu creuses. Et t'es fatigué. Il y a déjà eu quelqu'un de fatigué. Moi, je me suis fatigué comme ça, hein, plein de fois. Hein, à creuser, à râler contre Dieu. Mais non, hein, je creuse, mais non. Hein. On a des cœurs tortueux. Alors, c'est toujours, ça va produire en toi, je vais vous parler de sentiments aujourd'hui. Vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui court après les sensations, hein. On veut pas être une église qui produit des choses. Mais on veut être une église qui reçoit de Dieu. C'est autre chose, c'est différent. Mais en même temps, Dieu nous demande de vivre les choses entièrement à son image. Donc dans notre humanité, nous sommes intellectuels, nous avons des sentiments et Dieu veut nous parler dans ce que nous sommes profondément. Ok ? Et quand tu es dans cette attitude de creuser, ça va produire en toi un sentiment qui est tu as l'impression que ce que tu fais, c'est jamais assez. Peut-être dans ta vie spirituelle, tu as l'impression que tu pries jamais assez, que tu jeûnes jamais assez, que de toute manière, quoi que tu fasses, tu n'écoutes pas encore assez de sermons, que dans ton travail, tu ne donnes pas encore assez. Et c'est ça qui va produire cette dépression spirituelle, où tu n'es pas connecté à la source de vie, mais tu es connecté à ta propre citerne, où l'eau s'en va, l'eau commence à noircir, parfois ça devient de la boue. Alors trop souvent, on va prendre la ressemblance de Dieu dans une attitude, on va se tromper et on va penser que ressembler à Dieu, c'est l'immobilité de la prière, c'est de rester dans une attitude un peu spirituelle et ça fait de nous des gens qui sommes ressemblants à Dieu. Et en fait, on va séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est saint, ça va être historiquement parlant, le culte, les choses de Dieu, la parole de Dieu, on va être des gens très attachés à ça. Mais dans tout ce qui est profane, c'est ta réalité, c'est ton quotidien, c'est aller faire les courses, aller travailler. Eh bien, il va y avoir une séparation de vie entre ce que tu vis spirituellement et comment tu agis dans ta vie de tous les jours. Et pourtant, on est dans la prière, on cherche Dieu et tout, mais ça n'a aucun impact dans ma réalité. Eh bien, si c'est ton cas, c'est que tu as creusé des citernes. Et qu'il est temps de te rebrancher à la source. Parce que ce que Dieu veut, c'est déverser sa gloire dans ta vie pour impacter ta réalité, pour impacter tout ce que tu vis, pour marcher avec toi tous les jours. Alors je te pose la question. Cette semaine, as-tu profondément, intensément marché avec le Seigneur Jésus, sauveur de ton âme, libérateur de toute forme de péché dans ta vie, et qui t'a donné paix et espérance. Oui ou non? Oui, il y en a qui ont dit oui. Alléluia, il y a des bonnes semaines là. Alors parfois, oui, on a des bonnes semaines, mais soyons honnêtes, c'est pas tous les jours comme ça. Pas tous les jours comme ça. Parce qu'on est un peu comme Saül. Saül a commencé dans l'onction. Ah, il y a l'onction, c'est le roi Saül, le titre, tout. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous mettre le verset. Eh bien, il nous est dit que Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. Puis il est reparti en passant plus loin, peu importe où il va. Mais il s'est érigé à lui-même un monument. Il a connu l'onction. Il a été un roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il quitte le modèle et il finit par tomber dans l'égocentrisme. Et il se monte un monument à lui-même, une fierté personnelle. Et vous savez comment il a fini. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors, je vais avancer un peu. Quelle heure est-il? Ok, encore un petit peu de temps. Alors, ça va créer chez nous une activité citerne ou une activité source. Soit tu es actif en étant branché à la source, qui est Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ est non seulement la source, mais il est en même temps quoi? Le rocher. Alors, tu peux choisir ton rocher et dire, sur ce rocher-là, je vais creuser. Mais Dieu te dit, il y a un rocher plus fiable où tu peux investir et où sera une durée éternelle, c'est Jésus-Christ. Parce que ce rocher était frappé par Moïse, vous vous souvenez? T'es frappé, l'eau a jailli, c'était une préfiguration. Et sur ce rocher, eh bien, on peut construire parce que des sources d'eau vive vont monter en nous. C'est incroyable. La Bible nous dit que Jésus vient vivre en toi. Eh bien, s'il vit en toi, il y a une source en toi dont, où tu peux boire qui est intense, profonde et où il ne manque jamais rien. C'est incroyable. Mais est-ce qu'on vit ça tous les jours? Alors arrêtons-nous. Est-ce que j'ai vécu ça cette semaine? Ou est-ce que j'étais dans mes habitudes chrétiennes? Et c'est bien d'avoir une discipline. Mais cette discipline doit nous amener à la vie. Pas à des habitudes ternes. Tu vois, quand le miroir commence à devenir terne, qui ne reflète plus la gloire de Dieu, qui est centré sur lui. Alors l'activité hors de Christ, donc dans le granit, tu travailles pour exister, tu t'agites pour prouver ta valeur. Tes activités sont des burins. Boum, 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 boum. Et tu vas avec ça, tu vois, toutes tes activités, sans le savoir, inconsciemment parfois, tu essaies de construire ta propre gloire. Ça arrive. Et le résultat, je vous l'ai dit, épuisement, stress, et puis un miroir qui s'encrasse de poussière. Tu construis sur le sable de ton ego. Et parfois, c'est tellement subtil qu'on ne le remarque même pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres pour dire, hey, tu ne penses pas que tes décisions en ce moment, elles s'écartent un petit peu de ce que Dieu veut pour toi. Et là, ça nous permet de nous remettre en question. C'est-à-dire, effectivement, là, je suis un peu préoccupé. C'est vrai que toute mon énergie va dans ce domaine-là. Mais Seigneur, est-ce que je n'agis pas par crainte de manquement? De manquer. Peut-être que j'agis parce que, eh bien, j'ai une peur, j'ai une crainte de l'avenir, une crainte de la mort. Le Seigneur te libère de tout ça. C'est des sentiments qui peuvent passer en toi, mais tu te positionnes en Jésus-Christ. Et ensuite, on a l'activité qu'on peut avoir sur le roc, en Christ. Alors là, tu ne travailles pas pour obtenir une identité, mais tu travailles depuis ton identité. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Et vous avez plein d'expressions comme ça, où Jésus nous parle, effectivement, il faut savoir, mais il faut vivre, il faut mettre en pratique. Alors, tu travailles depuis ton identité, comme je dis, retiens bien ça, tu dois travailler depuis ton identité en Christ, et pas pour prouver ta valeur. Tu n'as plus peur de tomber quand tu travailles depuis ton identité en Christ. Ce n'est pas grave si finalement tu fais une erreur, parce que ton identité en Christ, c'est, peu importe ce que les gens pensent de toi au final, peu importe ce que ta famille pense de toi, tes amis, etc., etc. Ton patron. Alors c'est Rodrigue, il m'a dit, alors toi tu as fait fort, hein. Tu peux me permettre de parler de toi? J'ai parlé avec Rodrigue. Et vous savez, donc ma sœur Virginie, elle a fait un livre. Et donc, Rodrigue, il était encore en période d'essai au travail, et il prend le livre et il offre ça à son patron, son chef. Et puis le patron, il lui dit, c'est quand même osé de me donner un livre comme ça, c'est quand même très spirituel. Et Rodrigue, il lui répond, il ne sait plus où se mettre. Il se dit, punaise, je suis en période d'essai, j'ai tenté un truc là, mais en même temps, j'ai suivi mon cœur. Qu'est-ce que je dis ? Il se laisse conduire, mais il se retrouve face à une situation. Mais c'est quand même très spirituel, ce livre. Et là, Rodrigue, il répond, mais t'as aimé ? Ah ouais, j'ai aimé, c'était bien, vraiment. Et moi, après, je pose la question à Rodrigue, je dis, mais tu l'as lu, le livre ? Ben non, il me dit. Alors, je dis, toi, t'es exceptionnel, toi. Il est impressionnant. Mais Dieu l'a conduit. Bravo, Rodrigue, je te félicite. Et vous savez quoi ? Il a été validé. C'est pas bon, ça ? Je pouvais le dire, Rodrigue ? Voilà, validé. Mais vous savez, il y avait la crainte parce qu'il a acheté la maison, Dieu l'a béni, malgré une période d'essai, et il tente quelque chose comme ça, mais voilà, il a orienté la gloire de Dieu. Il s'est dit, tiens, Seigneur, tu me dis que, ok, j'envoie la sauce. Et Dieu bénit. C'est incroyable. Ça, c'est concret. Amen. Alors, tes activités, lorsque tu fonctionnes sur Jésus-Christ, ta source, c'est plus des moyens de survie, mais c'est des moyens d'exprimer la vie de Dieu en toi. Et c'est là où on va tous être différents, parce que nos activités, nos appétences, nos talents, nos dons ne sont pas les mêmes. Mais nous devons entrer pleinement de temps pour exprimer dans notre travail, au sein de notre famille, ce que Dieu a déposé en nous. Mais si tu es fixé sur « je suis timide », ah ben tu ne feras rien. « J'ai pas la parole facile », ben tu ne diras rien. « Je suis ceci, je suis cela », ben tu te bloqueras toi-même. Et tu vas fixer ton miroir et tu vas te bloquer sur toi, sur tes peurs et sur tes craintes. Ben Rodrigue, bravo, tu n'as pas eu peur. Vous voyez ce que je dis ? C'est des exemples concrets du quotidien. Où on se dit, Seigneur, toi d'abord. Alors, maintenant, on en arrive à Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ici, dans le arrêter, si on étudie ce verbe, en hébreu, c'est un verbe qui veut dire vraiment, c'est lâche-prise. Lâche-prise. Et vous savez combien c'est difficile de lâcher prise dans certaines situations où on aime bien contrôler, hein, on est des Gaulois, hein, nous. Et puis, si tu n'es pas né ici, eh ben, tu es influencé par la mentalité française. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas évident. Arrêtez, lâche prise. Je suis Dieu. Je suis avec toi. Je vais t'accompagner. Est-ce que tu peux me faire confiance maintenant ? Arrête de t'agiter. Arrête. Je suis là. Si tu pouvais ne serait-ce que mettre un peu ta foi en moi dans ce domaine de ta vie. Et oublier tes inquiétudes, tes limites. Tu verrais combien je suis grand. C'est ça que Dieu te dit. Vous voyez, c'est très simple, hein, ce que je vous dis ce matin. C'est excessivement simple. L'évangile est simple. Mais qu'est-ce que c'est difficile à mettre en pratique ? C'est juste ou pas ? Qu'est-ce que c'est difficile de mettre en pratique ? Voilà pourquoi il va nous falloir de la discipline. De dire, ok, chaque jour, je vais décider de m'arrêter. Pourquoi je fais cette chose-là ? Est-ce que réellement j'ai confiance en Dieu ? Est-ce que Dieu me laisse l'opportunité de faire les choses à ma guise ? Ou est-ce qu'il m'a déjà orienté et conduit ? Eh bien, la réponse pour moi sera différente de la tienne, parce que nos vies sont différentes. Mais d'être aligné à cette source et de dire, Seigneur, maintenant c'est toi qui vas m'alimenter. Ensuite, on va avoir dans Exode le moment où Moïse va arriver devant le buisson ardent, hein, ça fait pas mal d'années qu'il est là, il est berger, il est dans ses habitudes de berger, vous savez, il est ancré dans sa vie maintenant, ça y est, il ne s'attend plus vraiment à ce que Dieu fasse quoi que ce soit pour lui. Et là, Dieu l'interpelle, tu es le libérateur, entre dans le lieu saint, enlève tes sandales. Souvent, on a l'impression qu'enlever ses sandales, c'est juste parce que c'est un lieu saint, il ne faut pas salir. Non, Dieu, on ne peut pas le salir. Tu ne saliras jamais Dieu. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, dans les choses qui sont tellement parfaites en Dieu, eh bien, t'enlèves ta façon de penser, ta façon de marcher. T'abandonnes ta façon d'être carrément. Ta façon de réfléchir. Tu dis, j'entre dans ce lieu saint pour accepter profondément ce que Dieu veut me dire. Pour vivre cette sainteté. Mais si tu veux toujours avoir raison et être dans tes pensées, tu ne connaîtras pas la sainteté de Dieu. Mais quand Dieu t'invite dans le lieu très saint, ah, ça chamboule. Et tu vois, là, on n'est plus dans l'ordre de la théologie. On est dans l'ordre de vivre, d'expérimenter la sainteté, d'expérimenter l'amour, d'expérimenter sa compassion, etc., etc., etc. Et tous les jours, il faudrait qu'on se dise, Seigneur, j'aimerais expérimenter quelque chose de nouveau avec toi. Alors j'enlève mes sandales et je veux rentrer dans ton lieu saint. Incroyable. Et puis vous savez, hein, le rideau a été ouvert, c'est l'intention de Dieu qu'on rentre dans ce lieu saint, parce qu'il y a, lorsque Jésus a été frappé, il y a eu un séisme et le voile s'est déchiré de haut en bas. Et Dieu il dit, entrez mes enfants, la porte est ouverte. Mais trop souvent, on marche à côté, mais on ne rentre pas. Alors, on va aller sur Galates 2, on va avancer. Galates 2. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On peut s'arrêter là et garder ça pendant 3 mois et se dire, Seigneur, maintenant je veux que ce soit toi qui vives en moi. Peu importe que tu aies 40 ans de chrétienté ou alors 2 mois, on aura tous le même boulot. Parce que Dieu est tellement grand, il est tellement parfait, mais notre cœur peut s'engager à dire, Seigneur, cette semaine, ce n'est pas moi qui vis. Je vais faire comme Rodrigue. Je vais me laisser un peu conduire. Peut-être que je vais voir ta gloire. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On va prendre Philippiens 2, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 5, me semble-t-il. Paul va dire, et ça c'est intéressant, ça va être notre défi cette semaine. Tu es prêt? Parce que quand Paul il parle, en règle générale, il sait de quoi il parle. Ayez les mêmes sentiments que Christ. Alors, dans cette version, que votre attitude soit identique. Mais il y a une version qui nous dit, je pense que c'est en second 1910, ayez les mêmes sentiments. Ces mêmes sentiments produiront, c'est pour ça que là c'est abrégé, une attitude. Tu vas être comme le modèle. Ayez les sentiments de Jésus-Christ. Est-ce que cette semaine, je vous embête, tu as eu les mêmes sentiments que Jésus-Christ? Moi, je peux te dire qu'à des moments, je n'ai pas eu les sentiments de Jésus-Christ. Il y a des gens un peu plus parfaits dans la salle qui ont... Aïe, aïe, aïe. Ayez les sentiments de Jésus-Christ. Alors, ma femme, je vais vous donner un exemple du quotidien. Des exemples simples. Et ça va du plus simple au miraculeux. On doit faire la vaisselle à la maison parce que notre lave-vaisselle y a lâché. On a décidé de ne pas réparer pour que les enfants ils apprennent à mettre la main à la pâte. D'accord? Il y a des parents ici qui me comprennent ou... Donc vous savez, quand vous dites lave-vaisselle, tout le monde se barre. Et puis vous avez des enfants plus filous que d'autres. Il y a ceux qui râlent de manière ouverte dès que vous dites qu'ils protestent. Et puis vous avez ceux qui laissent protester l'autre et qui délicatement s'en vont. Alors Chanel, elle a des yeux. Et donc, je vais vendre ma fille, mais bon, on lui pardonne, hein, c'est un enfant, elle apprend. Et donc Esther, elle s'est barrée, et elle, c'est la pro pour se barrer. Et donc Chanel dit, ok, t'es parti, ce soir, c'est toi qui fais la vaisselle pour tout le monde. Alors, il y avait 2 solutions. Et là, Esther, qu'est-ce qui se passe? Elle doit faire la vaisselle. D'un coup, elle mange comme elle n'a jamais mangé. Et puis elle traîne, et puis son petit pot de yaourt. Et nous, on a envie de passer à autre chose, vous voyez. Donc nous, les parents, ça nous coûte, parce qu'on veut éduquer, mais en même temps, on a envie qu'ils aillent au lit, tu vois. Hein? Il y a des parents? Ouais. Donc il faut se battre avec ça. Mais tu as 2 solutions. Soit tu vas au conflit avec ton enfant, soit tu rends cette expérience agréable. Donc Chanel, elle dit, bon, je vais rester avec elle, elle reste avec elle. Et puis d'un coup, moi j'étais là et tout, plus haut, et j'entends la musique à fond dans la maison. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font? Donc ce matin, je demande à Chaïs, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait avec Esther hier quand même? Et elle me dit, bah, tu vois, je me suis dit que comme elle a une belle voix et que j'aimerais qu'elle chante, elle l'a titillé un peu, elle a dit, bah, on va chanter et on va louer le Seigneur. Et finalement, ils ont passé une heure dans la cuisine à louer le Seigneur ensemble. Et d'une dispute, on a transformé ça en un temps de louange pour Dieu et d'adoration. Mais c'est compliqué, ça demande on a envie de dire, allez, dépêche-toi! Fais vite, c'est pas possible! Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ta faute! T'avais qu'à faire la vaisselle ce midi! On serait comme Adam, tu vois. Justifier qu'on se fâche pour que ça aille plus vite. Mais là, ça a été un temps d'adoration et Chanel lui a dit, tu vois, on peut lier les corvées à des choses agréables avec Dieu. Et bien, vous voyez, finalement, ça m'a marqué parce que je me suis dit, nous, c'est pareil. Parfois, notre travail, c'est une corvée. Parfois, il y a tellement de choses, c'est une corvée pour toi et pour moi. Mais de dire, Seigneur, tu es avec moi. Et je vais vivre quelque chose d'exceptionnel avec toi. Et peut-être que même je verrai ta gloire et il y aura des grandes choses parce que tu vas vouloir te manifester dans cette situation. Mais si je reste fixé sur mon humeur du moment, je me prive de quoi? De la gloire de Dieu. À nouveau, c'est tellement simple. Mais tous les jours, tu es confronté comme moi à ça. Et ça reste un défi. Alors, ce matin, ma pensée pour nous, c'est, puissiez-vous vous dire cette semaine, je m'arrête dans toutes mes activités, dans tout ce que je fais, et je me remets devant le Seigneur. Seigneur, je veux rentrer dans le lieu très saint, dans toutes les choses profanes que je fais. Il n'y a pas que mes genoux le matin en prière. Oui, tu commences comme ça, mais tu embarques la présence de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Paul, il m'a dit ce matin, mais j'ai oublié que c'était si long de couper mes haies. Ben, que Dieu soit avec toi pour le reste. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des réalités. On va apprécier ces moments avec le Seigneur, dans notre famille, dans les choses difficiles. On va dire, Seigneur, je suis avec toi. Quelle grâce, tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Je veux vivre profondément. Et de là va découler les signes, les prodiges, les miracles, parce que ton cœur sera disposé. Et à un moment donné, tu vas voir des situations et le Saint-Esprit va te saisir. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il nous saisit. Et il dit, maintenant, tu vas exercer la compassion. Maintenant, tu vas exercer l'amour. Maintenant, tu vas exercer le caractère de Christ dans telle ou telle situation. Et là, tu verras Dieu, tu verras Dieu actif. Mais si tu cours après les miracles, mais que tu es incapable de mettre en pratique les choses simples, de dire, Jésus, je veux vivre avec toi au quotidien, tu vas passer à côté des miracles. Parce que ton cœur n'est pas prêt. La Bible nous dit, on a des cœurs de pierre. Et il faut qu'ils deviennent des cœurs de chair. Ça veut dire que ton cœur doit être perméable à la source qui est en toi. Il doit laisser jaillir ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Alors Seigneur, nous prions ce matin, en toute simplicité. Ta parole est simple, Jésus. Ta parole est véritable. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu veux que nous soyons ces enfants de lumière. Que nous soyons ces enfants qui reflétons qui tu es, Jésus. Alors ce matin, j'espère que tous ces exemples, ces anecdotes, ces versets, Seigneur, ont pu nous interpeller tout à chacun, Seigneur, dans ce que nous vivons au quotidien. C'est vrai que nous voulons être bons, c'est vrai que nous voulons marcher avec toi, c'est vrai que nous voulons te suivre, c'est vrai que nous voulons te connaître plus, mais parfois, Jésus, on veut te demander pardon, on est complètement à côté de la plaque. On creuse nous-mêmes des citernes, Seigneur, qui sont fissurées, et toute notre énergie passe là-dedans. Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nous puissions sentir ce vent de l'Esprit qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Jésus, je pense à Étienne qui était là, mais quel exemple il est. Il n'est pas notre modèle, c'est toi notre modèle. Mais Étienne est un exemple, Seigneur, de comment faire face à ceux, Seigneur, qui l'ont tout simplement lapidé. Ils lui ont craché dessus, ils lui ont jeté les pierres, ils l'ont maudit, ils lui ont dit qu'il était un moins que rien. Et puis Paul de Tarse, Saul de Tarse était là, il regardait. Et puis Seigneur, il était là et puis il a tourné les yeux et la Bible nous dit qu'il était comme un ange. Seigneur, dans ses difficultés, il était comme un ange, même jusqu'à la mort, il était comme un ange, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas si on me lapidait, si je serais comme un ange. Seigneur, je pense à Moïse qui est allé là-haut, Seigneur, et il est redescendu, il ne le savait pas, mais il rayonnait de ta gloire. Seigneur, nous voulons rayonner de ta gloire dans nos difficultés, dans nos joies. Seigneur, dans tout ce que nous sommes, Père. Jésus, transforme nos cœurs. On ne veut pas être des chrétiens religieux, mais on veut être des disciples, des serviteurs, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Proche de toi, on l'a entendu ce matin, proche de toi. Proche de toi, Jésus. Anime un feu, Seigneur. Anime un feu, Jésus. Anime un feu qui nous consume. Anime un feu qui nous consume. Seigneur, je te prie pour la sainteté. Tu es saint. Et ta parole nous dit que nous sommes saints parce que tu es saint. Jésus, la sainteté, Seigneur, selon l'homme, c'est toujours faire des efforts pour te ressembler. Mais la sainteté, selon toi, Seigneur, c'est aimer les choses qui sont pures. Et je te prie, Seigneur, de nous remplir d'un amour pour les choses qui sont saintes. Et de nous donner ce dégoût, Seigneur, pour ces choses qui ne sont pas saintes, Seigneur. On va arrêter de produire des efforts, mais on va aller puiser dans la source, Jésus. Je te prie, Seigneur, contre toute addiction, Seigneur, chez tes enfants, Père. Donne-leur, Seigneur, ce goût pour les choses saintes. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Vous savez, ma femme, elle m'a retourné dans mon identité culinaire. Elle a commencé un rééquilibrage alimentaire. Vous êtes dans le délire ou pas, vous aussi, ou il n'y a que moi? Et puis, on a commencé à manger du muesli, tu vois, de l'avoine. J'ai dit, moi, je suis pas un bovin. Oh, moi, j'ai besoin de choses solides. Je suis un homme, hein? Je travaille dur. Et puis pendant quelques semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un petit peu accro au sucre. Je ne savais pas, hein. Mais le fait de changer d'alimentation, pendant un mois, j'étais comme ça. J'allais vers le frigo, j'ouvrais, je ne savais plus qui j'étais. Je refermais. Et je repartais là, et je me dis, mais mince, j'en ai envie, mais en même temps. Et je dis, chérie, j'ai perdu mon identité culinaire. Je ne sais plus qui je suis. Je regardais les burgers, j'avais envie, mais en même temps, quand j'en mangeais, ça me dégoûtait. Tu vois, c'est vraiment bizarre, cette situation. Et Dieu m'a parlé. La sainteté, c'est ça. C'est Seigneur, les choses saines. Je veux les aimer davantage. Et tu vois, maintenant, je suis capable de manger du fromage blanc sans sucre. Avant, j'aurais craché. Donc, tout a changé, une transformation. Eh bien, on veut vivre ça. Ça marche. Alors, Seigneur, je prie encore pour ça, parce que je veux prendre ce temps. Seigneur, vraiment, Seigneur, guide-nous vers toi plus. Dans les choses concrètes du quotidien, mais surtout dans les choses spirituelles. Seigneur, je prie pour qu'on fasse attention à ce qu'on mange spirituellement, qu'on soit attaché à ta parole, Seigneur, à ce que tu nous dis plus que ce qu'on dit de nous, Jésus. Et toutes ces méthodes évangéliques, Seigneur, pour vivre des choses incroyables, Seigneur, tout ça c'est important, mais en même temps c'est d'abord notre identité en toi. Et ensuite, Seigneur, les choses viendront. Alors Jésus, prends ta place. Amen. Soyez richement bénis. À très bientôt.